Chapitre 1. Ted Bannerman. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la disparition de la petite fille à la glace au sirop. Ça s'est passé près du lac il y a 11 ans. Elle était là, et ensuite plus. Donc bon, c'était déjà une mauvaise journée avant que je découvre qu'il y a un meurtrier parmi nous. Dès l'aube, comme chaque jour, Olivia me saute sur le ventre. Selon moi, il n'y a rien de mieux que d'avoir un chat sur son lit. Je lui fais plein de caresses, parce que quand Lorraine arrivera tout à l'heure, Olivia s'en ira. Ma fille et ma chatte détestent être dans la même pièce. « C'est bon, je me lève. Mais je te préviens, c'est ton tour de préparer le petit déjeuner. » Olivia pose quelques instants sur moi ses yeux jaune-vert, puis s'éloigne sans un bruit. Trouve un disque de soleil où s'allonger et m'observe de nouveau en clignant lentement des paupières. Les chats n'ont aucun sens de l'humour. Je récupère le journal sur le perron. C'est un quotidien local que j'aime beaucoup pour sa rubrique recensant les observations d'oiseaux rares. On peut leur écrire si on a la chance de tomber sur un pic flamboyant ou un accenteur montanel. Malgré l'heure très matinale, l'air immobile est tiède comme de la soupe. Même la rue semble plus silencieuse que d'habitude, comme si elle se rappelait quel jour on est. Quand je vois la une, mon ventre se met aussitôt à faire des nœuds. Elle est là. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. J'ai tendance à me laisser surprendre par le temps. Tous les ans, ils reprennent la même photo. La petite fille a les doigts agrippés au bâtonnet de sa glace, comme si elle avait peur que quelqu'un la lui arrache des mains et elle regarde l'objectif. Ses yeux paraissent immenses, sous le bord de son chapeau, duquel dépassent quelques mèches de cheveux courts, encore humides. Elle vient de sortir de l'eau, mais il n'y a personne pour l'envelopper dans une serviette. Ça ne me plaît pas. Elle pourrait attraper froid. Ils n'ont pas publié l'autre photo, celle de moi. Il faut dire que ça leur a attiré pas mal d'ennuis. Pas assez, si vous voulez mon avis. Elle avait 6 ans. Tout le monde était bouleversé. Il y avait déjà eu le même genre de problème par le passé du côté du lac. Du coup, tout est allé très vite. La police a décidé de fouiller les maisons de tous les habitants de la région susceptibles de s'en prendre à des enfants. Je n'ai pas eu le droit de rester à l'intérieur pendant la perquisition, alors j'ai attendu debout sur le perron. C'était l'été, un après-midi chaud et aveuglant comme la surface d'une étoile. Plus le temps passait, plus ma peau rougissait. Je les ai écoutés retirer le vilain tapis bleu du salon, arracher les lattes du parquet et faire un trou dans le fond de mon placard parce qu'ils trouvaient qu'il sonnait creux. Leur chien fouinait partout, dans le jardin, dans ma chambre, partout. Je savais très bien de quel genre de chien il s'agissait. Ils avaient dans les yeux les arbres blancs de la mort. Un monsieur assez maigre s'est approché de moi et m'a pris en photo. Je n'ai même pas pensé à l'en empêcher. « Pas de photo, pas d'article », m'a-t-il lancé en partant. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais il a agité la main avec un grand sourire, alors j'ai fait pareil. « Qu'est-ce qui se passe, monsieur Bannerman ?» m'a demandé l'inspectrice de police qui ressemblait à un opossum, très fatigué. « Rien », ai-je répondu. Je tremblais. « Il ne faut pas parler, petit Teddy. » Mes dents claquaient comme si j'avais froid alors que je mourais de chaud. « Vous avez appelé mon nom, » a précisé la policière. « Il me semble que vous avez crié le mot « vert ». Je devais repenser à une histoire que j'ai inventée quand j'étais petit, celle des enfants disparus qui se transforment en choses vertes au lac. Elle m'a lancé un regard que je connaissais bien parce que j'y ai tout le temps droit. Alors j'ai serré le tronc du chêne dans le jardin. L'arbre m'a transmis un peu de sa force. Est-ce que j'avais quelque chose à dire? Si c'était le cas, je n'arrivais pas à me rappeler quoi. « Monsieur Bannerman, cette maison constitue-t-elle votre seule et unique résidence? Vous ne possédez pas d'autres propriétés dans la région? Une cabane de chasse, peut-être ?» Elle a essuyé la transpiration sur sa lèvre. Elle était très investie dans cette affaire et ça lui faisait comme un énorme poids sur les épaules. « Non, » j'ai répondu. « Non, non, non. » Elle n'aurait pas compris si je lui avais parlé de l'endroit du week-end. Au bout d'un moment, les policiers sont repartis. Ils n'avaient pas le choix, vu que la veille, j'avais passé tout l'après-midi devant le supermarché et que beaucoup de gens pouvaient en témoigner. Il y avait même des caméras pour le prouver. Souvent, j'allais là-bas et je m'asseyais à l'extérieur, au niveau des grandes portes coulissantes. Dès qu'elles s'écartaient en sifflant pour libérer des clients dans un courant d'air frais, je me tournais vers eux et je leur demandais s'ils avaient des bonbons. Parfois, ils m'en donnaient et parfois, même, ils m'en achetaient exprès. Maman. maman aurait eu honte si elle avait su. Mais j'aime tellement les bonbons. En tout cas, ce jour-là, je ne me suis approché ni du lac, ni de la petite fille à la glace au sirop. Quand j'ai enfin pu rentrer chez moi, leur odeur flottait partout dans la maison. Un mélange de parfums, de sueur, de caoutchouc et de produits chimiques. J'étais en colère, parce qu'ils avaient vu tous mes trésors comme la photo de papa et maman. Déjà à cette époque, les couleurs avaient commencé à passer et on avait de plus en plus de mal à discerner les traits de leur visage. C'était comme s'ils s'apprêtaient à me quitter, à disparaître vers le blanc. Sur le rebord de la cheminée, il y avait aussi la boîte à musique cassée que maman avait rapportée du pays lointain où elle avait grandi. La boîte à musique ne fonctionnait plus. Je l'avais cassée le jour où j'avais aussi fracassé les poupées russes. Le jour de l'incident avec la souris. La petite ballerine avait chuté de son piédestal et était allongée, comme morte. C'était surtout pour elle que je me sentais triste. Je l'ai appelée Héloïse, je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'elle ressemblait à une Héloïse. J'ai entendu dans ma tête la belle voix de maman. « Tu me prends tout, Théodore. Tout, tout, tout. » Ces gens avaient fouillé dans mes affaires avec leurs yeux et leurs pensées, et maintenant, c'était comme si cette maison n'était plus la mienne. J'ai fermé les paupières et je me suis forcé à respirer profondément pour me calmer. Quand je les ai rouvertes, la grosse poupée russe me souriait. À côté d'elle, dans sa boîte à musique, Héloïse se tenait debout, le regard fier, les bras tendus bien au-dessus de la tête. Sur la photo, maman et papa affichaient un grand sourire eux aussi. Et sous mes pieds, j'avais retrouvé mon beau tapis orange tout moelleux. Tout de suite, je me suis senti mieux. Les choses étaient rentrées dans l'ordre. J'étais à la maison. Olivia s'est frotté la tête contre ma main. J'ai ri, je l'ai prise dans mes bras, j'étais comblé. Mais tout en haut, au grenier, les garçons verts s'agitaient. Le lendemain, j'étais dans le journal. La une titrait « Perquisition chez un suspect ». Et juste en dessous, on me voyait debout devant ma maison. Les policiers avaient effectué d'autres perquisitions, mais en lisant l'article, on avait l'impression que j'étais le seul suspect. Il faut croire que les autres avaient été assez malins pour ne pas se laisser approcher par le journaliste. Pas de photo, pas d'article. Et comme ma photo se trouvait juste à côté de celle de la petite fille à la glace au sirop, c'était facile de tirer des conclusions. Sur le cliché, le nom de la rue n'était pas visible, mais j'imagine que les gens ont quand même reconnu ma maison. Car c'est à partir de ce jour-là qu'on a commencé à lancer des pierres et des briques dans mes fenêtres. C'était infernal. Dès que je remplaçais un carreau, on me le recassait. À la fin, j'ai abandonné et je me suis résolu à clouer des panneaux de bois sur toutes les ouvertures. Ça les a calmés. Il faut croire que c'est moins amusant de jeter des cailloux quand il n'y a rien à détruire. Après ça, j'ai arrêté de sortir la journée. C'était une période compliquée. Je mets la petite fille à la glace au sirop, enfin le journal avec sa photo dessus, dans le placard sous l'escalier. Mais alors que je me penche pour la placer en dessous de l'énorme pile de papier branlante, je découvre un objet caché derrière sur l'étagère. Un magnétophone. Je le reconnais tout de suite. C'est celui de maman. Je l'attrape et éprouve aussitôt une sensation étrange, comme si quelqu'un murmurait à côté de moi, mais juste un peu trop bas pour que je l'entende. Dans l'appareil, une vieille cassette avec un logo au bande jaune et noir et une étiquette sur laquelle figure un seul mot presque effacé, « Note ». C'est bien l'écriture soigneuse de maman. L'enregistrement est arrêté à environ la moitié d'une des faces. Je ne l'écoute pas. Je sais déjà ce qu'il y a dessus. Maman prenait toujours ses notes à voix haute. Sa voix, avec cette hésitation sur les consonnes dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. On pouvait presque entendre la mer dans sa voix. C'est qu'elle était née loin, maman, sous une étoile noire. « Remets-le à sa place, je pense. Oublie que tu l'as vu. » J'ai mangé un gros cornichon aigre doux, et maintenant ça va beaucoup mieux. Après tout, ces choses se sont passées il y a très longtemps. La luminosité augmente, ça va être une belle journée. Bientôt, les oiseaux seront là. Tous les matins, ils quittent la forêt et viennent trouver refuge dans mon jardin. Paruline, roitelet, bruant, bec croisé des sapins, moineaux, merles, pigeons, il y en a une multitude et c'est un spectacle magnifique. J'adore les observer.